Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
C'est une conseillère conjugale et familiale que je reçois, responsable de la formation de Parlez-moi d'amour, auteur de cet ouvrage que je tiens entre les mains. J'ai confiance en toi, avec ce sous-titre « Accompagner notre adolescent sur le chemin de la vie affective » et un deuxième ouvrage « Le sexe et le cœur, aimé en toute liberté ». Ce deuxième livre s'adresse plus spécifiquement aux jeunes lecteurs et aux adolescents, toujours aux éditions de l'Emmanuel. Bonjour Valérie Ternec.
Bonjour.
C'est une troisième semaine, on les enchaîne ces rendez-vous. Et on ne parle que d'amour et de beauté et au fond de rétablissement. Alors, on a ouvert la semaine dernière, vous en parlez dans vos conférences, on enregistre ici ces séries à Lourdes pendant ce pèlerinage du rosaire. Vous présentez une poupée russe presque. Cette première poupée, la semaine dernière, nous faisait presque toucher du doigt et travailler sur le corps. On ne fait pas du tout de psychologie dans ces émissions. Et on va visiter, on va prendre dans nos bras. Une deuxième poupée qui nous conduit à ouvrir cette porte de la sensibilité, je dis bien avec délicatesse et bienveillance, parce qu'elle nous ouvre les portes de toutes nos émotions qui peuvent parfois déborder et dont on peut avoir peur. On vous écoute.
Les émotions, c'est quelque chose de pas forcément toujours agréable, puisque la colère, la peur, la tristesse ne sont pas agréables, mais c'est toujours extraordinairement beau parce que ces émotions nous apprennent qui on est. Donc la colère, si on est en colère, on sent qu'on a peut-être pas toujours été respecté. Si on est triste, c'est qu'on a besoin peut-être de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un et qu'on a besoin d'être consolé. Et puis si on a peur, c'est quand même pas mal d'avoir peur, parce que si on arrive au bord d'une falaise et qu'on a envie de voler, bah la peur nous dit non, mais tu vas te fracasser en bas de la falaise. Donc ça nous permet de nous protéger. Et en tout cas, dans nos peurs, on se rend compte qu'il y a 70 ou 80% d'imaginaire. Donc il faut faire très attention spécialement avec la peur, parce que regardons toutes nos peurs d'il y a 10 ans, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça qui se sont réalisées. Donc, on a souvent très peur. Et moi, je suis une très grande... Je connais bien la peur, j'ai peur tout le temps. Mais du coup, j'ai du mal avec cet imaginaire qui me taraude de cette peur qui est très, très forte en moi. Mais en fait, voilà, ces émotions sont là toute la journée. Elles passent, elles reviennent. On en a 1000 par jour, c'est très beau. Et elles sont très importantes et il faut les accueillir. Et dans notre civilisation judéo-chrétienne, on ne les a pas toujours accueillies, parce qu'en fait on pensait que ça allait nous proposer c'est ce qu'on va en faire qui va être grave, mais c'est pas même la jalousie, c'est quelque chose de très beau comme émotion. Et la jalousie, c'est qu'en fait on manque d'amour, on a le droit de reconnaître qu'on a manqué d'amour, c'est pas un problème, simplement c'est ce qu'on va en faire. On a tellement peur de ce qu'on va en faire qu'on n'ose pas les écouter. Et si on ne les écoute pas et qu'on met un couvercle dessus, ça va devenir énorme et ça va exploser sur des gens qui ne sont absolument pas... qui méritent pas ça, quoi. Voilà. Donc il y a des émotions démesurées qui arrivent dans notre existence qu'on ne comprend pas, souvent sur le même thème ou devant les mêmes personnes ou devant une odeur ou devant... Devant un objet, c'est assez impressionnant. Tout d'un coup, on ne sait pas se contrôler et cette émotion démesurée va abîmer mon entourage. Et dans la vie affective et sexuelle, on est obligé d'en parler parce que sinon, les jeunes sont complètement... en fait, ils sont capables de détruire en 2 minutes quelque chose parce qu'ils ne sont pas compris par les autres. Mais en même temps, c'est des émotions dont il faut... En fait, il ne faut peut-être pas forcément connaître l'origine. Parfois, on ne trouvera pas l'origine, mais on sait... Que par exemple, moi dans un hôpital, je déteste l'odeur de l'éther parce que j'ai une petite fille que j'ai souvent amenée à l'hôpital et un mari qui a eu un grave problème de santé. Du coup, j'aime pas ce lieu. Et du coup, à chaque fois que je vais dans ce lieu, je préviens la secrétaire en disant « je ne suis pas aimable, vous inquiétez pas, c'est pas à cause de vous, c'est que je déteste ces lieux ». Et du coup, elle est rassurée, tout va bien et je peux l'agresser après, même si elle saura que c'est pas elle.
Mais elle était rassurée au départ, vous avez posé voilà. des
Vous voyez, c'est important de pouvoir se dire les choses tout simplement. Et en fait, dans nos vies, on a des blessures très, très profondes qui sont parfois même méconnues. L'autre jour, un homme est arrivé en me disant « En fait, je viens avec ma femme que j'aime profondément, mais je voudrais un tiers parce que j'ai quelque chose à lui dire qui n'est encore jamais arrivé, mais je rêve la nuit, le jour, tout le temps, de la tromper alors que je l'aime. Alors du coup, elle était un peu mal, elle est devenue toute blanche, donc je lui ai proposé de raconter comment ils s'étaient rencontrés. On a pris 5 bonnes minutes pour que tout le monde aille mieux, et ils m'ont raconté qu'ils avaient 3 enfants de 12 ans, de 10 ans, de 8 ans. Et à un moment donné, je lui ai dit, et vous monsieur, revenons-en à vous, puisque c'est vous qui avez pris rendez-vous, est-ce que vous pourriez me dire quel est le pire souvenir de votre vie? Et là, il m'a dit, quand j'avais 12 ans, vous vous souvenez, hein, son fils venait d'avoir 12 ans, donc ça réveille ses 12 ans. Quand j'avais 12 ans, mon père, il est parti avec ma mère. Mais je ne veux pas qu'on juge mon père. Donc toute sa loyauté familiale me disait, stop, je veux bien vous dire la vérité, j'ai confiance en vous, mais ne jugez pas mon père. Et je lui ai répondu, non, je ne jugerai pas votre père. C'est certainement une très très belle personne, mais l'acte qu'il a posé n'est pas juste, puisqu'il a abandonné sa femme qui avait besoin de lui et qu'il l'aimait. Donc, et que vous étiez tout petit, que vous aviez 12 ans, ça c'est pas juste. Et c'est un acte, ne va pas, on va pas confondre la personne et l'acte dans cette sensibilité. Il y a des choses qui sont pas belle que j'ai fait, moi, Valérie, dans ma vie. Et c'est pas pour ça que je suis une mauvaise personne. Je resterai toujours belle à mes yeux parce qu'en fait, ces actes, en fait, j'ai demandé pardon ou il y a très longtemps. Aujourd'hui, je ne les referai plus. Vous voyez, donc en fait, je vais pas traîner ça toute ma vie comme une victime. Je me relève dans mes émotions. J'explique à la personne que j'aime que je peux avoir des réactions démesurées de temps en temps et je reste pas par terre à traîner ça toute ma vie. Je dois continuer à être une belle personne et mes actes ne vont pas me coller toute la vie, et surtout celle de mes ancêtres. Il faut quitter son père et sa mère. En fait, les ancêtres ont mangé du raisin vert et les descendants en auront les dents agacées. Voilà ce qu'on peut vivre sur 3-4 générations. Alors du coup, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait se détacher de tout ce qui a été mauvais, comme si on était comme si on était responsable d'un train. On est aux commandes du train. Il y a certains wagons qu'il faut lâcher. Il faut surtout garder les beaux parce qu'on a reçu la vie de nos ancêtres, peut-être la foi. On a reçu plein de choses extraordinairement belles. Ça, on garde. Mais on n'est pas obligé de garder les mauvais actes des ancêtres. Voilà, je crois que c'est important.
Donc, on en revient aussi à un choix aussi personnel. Qu'est-ce que je décide pour ma vie? Et au fond, ces deux chemins que vous dévoilez, je choisis ou un chemin de vie, et là, je dirais, on se relève, ou je persiste dans ce chemin de mort, paradoxalement. Je ne me veux plus de bien. Ça, c'est le paradoxe peut-être de la créature.
Et je pense simplement. qu'en fait, je pense qu'on est tous capables de se dire aujourd'hui, il me reste tant de temps à vivre, je suis à la moitié de ma vie, où je suis parent, etc. Et je pense qu'on a peut-être dans ces émotions un désir peut-être de se dire là, je vais pas traîner ça parce que je l'impute aux autres en fait, et du coup je dois vraiment être une personne debout. Je vais prendre du temps, ça prend du temps, c'est un chemin, hein. Ça se fait pas juste en un cours d'une émission comme
parce
ça.
Parce que là on fait quelques émissions en quelques minutes, ouais. Vous donnez quelques pistes de réflexion, voilà. Quelques clés, mais c'est pas magique.
Hein. Ah non, hein? C'est un long chemin. Travail. Moi j'ai mis beaucoup de temps.
Donc j'ai encore
des peurs, vous voyez. Imaginaire.
Même
tout
vous,
le temps,
vous avez encore des peurs. Hein.
Donc en fait, c'est un long chemin, mais c'est un chemin qui est beau. Et parce qu'en fait, on a tous la vocation d'être debout pour les autres, pour se donner, pour pouvoir vraiment répandre la beauté de cette sexualité sans en être victime. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de victimes, c'est vrai.
Donc faire ce chemin aussi, qui est un long chemin, oh, sortir oui. Aussi de cet état, au fond, victimaire.
Hein. Voilà, il faut s'aimer profondément parce que vous voyez, l'autre jour, mon mari arrive et me dit « je suis nulle ». Et je lui dis « oh, t'es nulle ? Ah bon ? Bah, je te crois parce qu'en fait, t'es quelqu'un d'être tellement honnête et tellement droit que je ne peux pas imaginer que tu me mentes. » Mais du coup, en fait, je lui dis « mais le problème, c'est que moi, je t'ai choisi. » Donc, ça veut dire quoi ? Que je ne suis pas du tout... J'ai pas bon goût, je me suis trempée, j'ai pas de discernement. Et je continuerai à t'aimer, mais je suis bête de continuer à t'aimer. Alors, il a ri. Et du coup, voilà, il faut vraiment s'aimer pour que les gens qui nous aiment ne nous trouvent... Ne sois pas déçu, on n'a pas à être victime de sa vie, les gens nous aiment et on a à être debout. C'est dur ce que je dis parce que je sens bien que dans les auditeurs vous devez vous dire mais c'est vraiment pas juste, elle se rend pas compte, elle sait pas ce que j'ai vécu, mais je crois vraiment qu'on est tous appelés pour notre monde aujourd'hui, pour parler de sexualité, pour parler d'affectivité, on a besoin de gens debout et on a besoin d'être aidés pour se remettre debout par contre. Et ça peut prendre du temps, vraiment.
Et vous savez aussi avec votre expérience, je dirais votre cœur et puis puis au fond, ces oreilles là, ces oreilles qui écoutent, et puis ce regard, voilà. Je suis venue à votre conférence, à la fin de votre conférence, ces personnes qui étaient venues vous écouter, des grands-parents, des parents sont venus vous voir, et je vous ai observé très peu, mais j'ai observé la manière et votre positionnement aussi. Vous écoutez, vous regardez la personne qui est devant vous, vous ne regardez plus du tout ce qui se passe à droite, à gauche, vous regardez la personne qui vous parle. Ce regard est important.
Oui,
pour
c'est
vous,
important.
Valérie.
J'ai juste une histoire à propos de ce regard qui est pas le mien. Je
Et
pense
ça
que
sera
c'est...
un peu aussi la conclusion de cette émission
oui.
du jour.
C'est pas le mien. Je pense que c'est aussi parce que je demande aussi à Dieu de m'aider dans cette mission. Et tous les animateurs Parlez-moi d'amour le font. On n'y va pas sans Dieu, en fait, même si on l'annonce pas. Mais en fait, il y a une jeune fille l'autre jour qui me disait je suis venue vous voir après l'intervention parce que je suis la prostituée de la classe. J'ai couché avec tous les garçons, mais j'ai pas très envie qu'on en parle, parce que la façon dont vous m'avez regardé me permet peut-être de me détacher de mes actes et de voir que j'ai fait des tentatives de suicide, me disait-elle, j'allais pas bien du tout, j'étais vraiment profondément mal et j'avais honte et j'étais sale et je me sentais pas bien, mais votre regard me sauve et là je veux plus parler de ça, je veux que vous preniez votre agenda et que vous marquiez mon prénom pour me regarder de chez moi pendant 2 ou 3 mois. Alors ça m'a fait pleurer parce que je me suis dit un regard sauve en fait. Il suffit juste de regarder la personne dans ce qu'elle est, dans la beauté de ce qu'elle est, et elle peut éventuellement prendre ce chemin pour se relever qui n'est pas court, qui est parfois long, mais qui rend tellement heureux.
Alors ceux et celles qui vous écoutent ne rencontrent pas ce regard, mais entendent une voix, et une voix aussi parle. Un regard peut relever, un regard peut sauver. Donc apprenons peut-être l'une des clés aussi à regarder pour révéler aussi peut-être toute la beauté qui est en l'autre, une beauté qui n'est pas perdue. Et vous parlez, vous revenez souvent sur cette belle personne qui est en face
ah
de
oui.
vous.
Ah oui.
Donc je dirais tous ces beaux auditeurs que nous ne voyons pas, qui ne sont pas en face de vous aujourd'hui, Valérie Ternec, mais qui vous écoutent. Je vous donne rendez-vous encore, si vous voulez bien, vous pourrez rester encore quelques minutes avec nous dans ce studio où nous enregistrons ces quelques séries d'émissions, puisque vous êtes de passage à Lourdes et de passage dans ce grand pèlerinage du Rosaire. Vous allez rencontrer beaucoup, beaucoup de jeunes, de nombreux parents et au fond, de nombreux grands-parents. À demain, à la semaine prochaine. Même lieu, même heure.